Alors, bonjour à tous. Ça va bien? Oui, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde a reçu un paquet avec les notes de cours pour aujourd'hui? Sinon, vous pouvez les prendre sur la table à l'arrière, à l'entrée. Monsieur Maltais aussi est en train d'en distribuer. On est dans la leçon 2 ce matin. Juste avant d'aller dans la leçon 2, proprement dit, on va lire un passage ensemble dans les Écritures. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous et que vous pouvez tourner avec moi dans Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe 6. Ésaïe 6, je vais lire à partir du verset 1 et je vais lire le chapitre en entier. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, dont 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu. » Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur. » Ne se convertissent point et ne soient point guéris. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ce passage est très troublant lorsqu'on le lit pour une première fois ou même quand lorsqu'on le relit. C'est troublant de voir Dieu manifester sa gloire, Dieu qui manifeste sa sainteté aux yeux d'Ésaïe, et on voit la réaction d'Ésaïe face à ça, et Dieu va annoncer dans le contexte, Dieu annonce la destruction de Jérusalem, la destruction de Juda, la destruction qui va venir par les Babyloniens plus tard. Et puis Dieu annonce un jugement qui vient, mais à la fin, comme il y a eu la grâce de Dieu qui a été manifestée envers le prophète Ésaïe, Dieu va manifester sa grâce. Il va dire à la fin qu'ils vont, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Et la dévastation était totale pour Jérusalem, pour Juda, mais Dieu annonçait déjà que même si le chêne est coupé, même si le chêne est abattu, il va y avoir des rejetons qui vont pousser. Un reste, plus tard on va voir dans Ésaïe, qu'un reste va être généré de cette destruction-là. Et nous, on sait, par la grâce de Dieu qui était manifestée en Jésus-Christ, qu'une sainte postérité qui renaît du peuple d'Israël, c'est le reste incluant toutes les nations avec lequel l'Évangile a été proclamé et que nous continuons de proclamer. Et nous qui avons cru à l'Évangile, nous faisons partie de cette sainte postérité, de ceux qui ont goûté la grâce de Dieu à travers le jugement que Dieu a apporté. Dieu a apporté aussi sa grâce et on fait partie de ce peuple-là. Et maintenant, ce matin, on va regarder ensemble un peu plus en détail le premier point que j'ai mentionné la semaine passée dans notre définition de la spiritualité, que ça commence par une foi et une repentance envers Dieu. Et comment notre spiritualité, comment nos affections spirituelles sont fondées sur une œuvre excellente que Dieu a accomplie pour nous en Jésus-Christ. Et on va voir tout ça à partir de ce passage-là. Mais juste avant, on va aller dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci parce que tu es Dieu. Et Seigneur, tu manifestes ta gloire et ta puissance de jour en jour dans nos vies. Mais tu l'as manifesté un jour aux yeux d'Ésaïe qui, lorsqu'il a été placé en face de ta majesté, de ta sainteté, est tombé à genoux, a reconnu qu'il était un pécheur et qu'il avait besoin de ta grâce. Et dans ta grâce, Seigneur, tu lui as apporté le pardon de ses péchés, et tu as effacé ses iniquités. Et de la même façon pour nous, Seigneur, si on peut s'approcher de toi, si on peut te connaître, c'est parce que toi, tu es venu vers nous. Et tu es venu nous rencontrer, là où nous étions. Tu nous as apporté ta grâce en Jésus-Christ, mais tu nous as aussi fait grâce en venant vers nous pour que nous puissions saisir ton évangile. Et Seigneur, si on peut vivre aujourd'hui en relation avec toi, dans une relation intime avec toi, c'est à cause de ta grâce envers nous, à cause que tu as voulu te révéler à nous. Et Seigneur, maintenant, à cause du pardon de mes péchés que tu as accompli en Jésus-Christ, je peux me présenter devant toi avec crainte et tremblement, mais me sachant aussi entièrement accepté dans ta présence, parce que tu m'as pardonné, tu m'as lavé de mes péchés. Et Seigneur, ce matin, on veut venir devant toi et encore une fois se rappeler ce que tu as fait pour nous et que cet évangile, ce que tu as accompli dans nos vies, puisse nourrir notre âme, Seigneur, afin qu'on puisse vivre un amour plus profond envers toi, que nos vies puissent manifester que nous t'appartenons et que notre désir le plus grand est que tu puisses recevoir l'honneur, la gloire à travers les vies consacrées à toi, Seigneur. Viens faire ton œuvre en nous ce matin. Mets ta main sur ton serviteur qui apporte cette leçon, ce message, Seigneur, et que dans ta grâce, on puisse être ensemble édifiés par ta parole. Et c'est au nom de Jésus, ton Fils, que je te prie ces choses. Amen. Amen. Alors, comme on l'a vu, la leçon dernière, en fait, la semaine passée, on a vu une introduction à qu'est-ce que la spiritualité en général. Pour certains, peut-être, j'ai entendu quelques commentaires, ça semblait très théorique. Mais ce qui est important pour moi que vous saisissiez, c'est que plusieurs dans notre société et les gens que vous côtoyez vivent la spiritualité à leur manière. Et cherchent, pour certains, ils sont athées, mais pour eux, c'est une philosophie qu'ils ont adoptée. D'autres vont chercher à vivre une certaine spiritualité de toutes sortes de manières. Et c'est important de saisir cet aspect-là des gens autour de nous. Parce que, en quelque sorte, si on veut leur apporter l'Évangile, on leur apporte une relation personnelle. On veut leur communiquer que c'est possible d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que Dieu s'est révélé, parce que Dieu s'est manifesté à nous en Jésus-Christ. Et en quelque sorte, l'Évangile vient chambarder la façon de penser des gens dans notre culture sur la façon dont vont vivre leur spiritualité. Mais c'est important de bien saisir où ils sont et qu'est-ce qu'ils recherchent à travers ça. Les gens recherchent à vivre une paix intérieure pour certains, d'autres cherchent à vivre une certaine relation avec un Dieu ou avec Dieu. Je pense qu'il y en a qui Un peu comme Corneille dans Actes 10, c'était un homme craignant Dieu. Je pense qu'il y a des gens qui sont des craignants Dieu dans notre société, mais qui n'ont pas l'Évangile. Donc, on a besoin de leur apporter l'Évangile pour qu'ils puissent saisir comment Dieu veut entrer en relation avec eux. Alors, peut-être que c'était un peu théorique et très large, mais comme vous avez vu à la fin, on a donné une définition de la spiritualité selon ce qu'on comprenait comme évangélique, que ça passe par Jésus-Christ. Et que c'est dans le but de glorifier Dieu. Ça, c'est un petit résumé. Ma définition est un petit peu plus détaillée que ça. Mais comme on a vu la semaine dernière, ce qu'on cherche à vivre, lorsque je parle d'affection spirituelle, c'est vraiment d'avoir une affection pour les choses que Dieu aime. Les choses que Dieu honore. Ce que qu'on veut, en quelque sorte, c'est vivre une relation intime et profonde avec Dieu pour qu'on puisse, que Dieu nous transforme, pour qu'on puisse avoir les mêmes sentiments que lui a, et qu'on puisse le glorifier en aimant ce que lui aime. Et Jean Calvin a décrit la relation intime avec Dieu. On peut parler d'affection spirituelle, on peut parler de piété, et lui, il va utiliser le terme piété. Je vous ai mis sa citation dans les notes. « J'appelle piété ce sentiment fait d'une union de respect et d'amour qui nous attire vers Dieu dont nous connaissons les bienfaits. » Dont nous connaissons les bienfaits. Donc, je connais Dieu, et une fois que je connais Dieu, il y a comme quelque chose qui m'attire dans une union de respect, de révérence, un désir d'aimer Dieu. Une fois que je connais qui est Dieu réellement, et ça, on va le voir ensemble, ça se passe par l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies. On découvre qui est Dieu, on découvre qui nous sommes, et on est attiré vers Dieu. Et donc, contrairement à ce que certaines philosophies du monde grec ancien et même des philosophies du monde moderne ou des religions du monde moderne enseignaient, je pense au gnosticisme entre autres. Le gnosticisme dans le monde grec, c'était de voir voir la spiritualité comme en gagnant des connaissances, en étant rempli de connaissances, je délaissais le monde matériel, tout ce qui est matériel qui est vu comme mal. Et lorsque je grandis dans une connaissance et j'acquiers des connaissances sur Dieu, sur l'existence de l'homme, etc., plus je gagne en connaissance, plus je m'approche de Dieu. Et en quelque sorte, la spiritualité dépend de qui à ce moment-là? De la personne elle-même, de l'homme qui fait des efforts pour aller vers Dieu, pour... Si je réussis à grandir en connaissance, je vais me rapprocher de la connaissance divine et je vais délaisser tout ce qui est mal et toute cette dualité, le bien, le mal. Et si je délaisse tout ce qui est matériel, qui est mal, je vais tendre vers Dieu et réussir à connaître Dieu. Mais on sait, en réalité, avec la révélation de Dieu dans sa parole, que c'est pas une connaissance ou c'est pas par mes propres efforts que je vais arriver à connaître Dieu. En fait, la connaissance puis la relation intime qu'on peut vivre avec Dieu sont rendues possibles par Dieu lui-même. Et c'est pour ça que j'ai intitulé la leçon « Le Dieu qui vient vers nous ». Parce que c'est impossible pour nous d'aller vers Dieu. Et c'est Dieu qui vient vers nous. Et Dieu est venu vers nous, il nous a révélé sa parole, mais il est venu aussi dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme pour nous révéler sa personne et sa gloire. Et malheureusement, l'homme, devant Dieu, devant sa sainteté, devant sa majesté, comme on le voit dans Ésaïe 6, lorsqu'on réalise qui est vraiment Dieu, on réalise qu'on n'est pas digne d'être dans sa présence. On n'est pas digne de vivre une relation avec lui. C'est pour ça que Christ est venu, pour venir rétablir une relation qui avait été brisée auparavant avec Dieu à cause de la chute. Et Christ vient apporter le pardon des péchés pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Mais pour être plus concret, en quelque sorte, on va voir ensemble en détail, c'est quoi? C'est comment on arrive à entrer en relation avec Dieu. Le sujet de cette leçon, c'est on essaie de répondre à cette question. Comment on arrive à entrer en relation avec Dieu? On va voir plus en détail des éléments qui sont prérequis pour nous, pour pouvoir entrer en relation avec Dieu. On va voir comment Dieu a rendu possible cette relation-là et quelle doit être la réponse de l'homme à la révélation de Dieu pour pouvoir vivre une relation intime avec Dieu. Si je veux vivre une affection spirituelle, des affections spirituelles, et si je veux vivre une relation profonde avec Dieu, j'ai besoin de saisir c'est quoi les prérequis, de comprendre comment Dieu est venu vers nous et de répondre à ce que Dieu a accompli. Et on va voir ça ensemble. Donc deux, c'est pour les prérequis, pour vivre en relation avec Dieu, c'est Richard Loveless dans un livre qui s'appelle « The Dynamics of Spiritual Life », c'est les dynamiques de la vie spirituelle, va établir deux conditions préalables à l'Évangile, que l'homme a besoin de saisir avant de venir à l'Évangile. Et ces deux conditions-là, c'est premièrement une compréhension juste de la sainteté de Dieu et une compréhension juste de la gravité du péché. En quelque sorte, j'ai besoin de comprendre qui est Dieu et qui je suis. Si je ne comprends pas qui est Dieu et qui je suis, je n'ai pas une connaissance juste pour pouvoir venir à l'Évangile et dire « j'ai besoin de ça pour entrer en relation avec Dieu ». J'ai besoin de l'Évangile pour entrer en relation avec Dieu. Mais pour pouvoir avoir cette compréhension juste de qui est Dieu et de qui nous sommes, par où on commence? Puis là, c'est une question que Jean Calvin a soulevée. Est-ce qu'on commence par connaître, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est connaître Dieu ou c'est me connaître moi-même? C'est connaître Dieu. OK, il y en a qui disent connaître Dieu. Qui sont ceux qui disent, faut premièrement, pour entrer en relation avec Dieu, faut premièrement que je connaisse Dieu lui-même. OK, il y a quelques-uns. D'autres qui pensent que je dois premièrement connaître qui je suis. OK, ah, c'est bon, c'est varié, c'est varié. Ouais, ouais, faut réaliser qu'on est pécheur. Mais OK. OK, c'est bon. Si je veux réaliser que je suis pécheur, faut que je sois comparé à quelque chose. OK. Donc c'est une question difficile, hein. C'est pour ça que je suis là. Ah, merci Seigneur, il y en a qui m'ont précédé, qui ont essayé de répondre à ces questions-là. Jean Calvin a dit, « Presque toute la sagesse que nous possédons, qui est en définitive réelle et véritable, présente un double aspect, la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Bien que ces deux connaissances soient liées, il est difficile de discerner laquelle précède l'autre. Hein? » Ah! Fait que finalement, on ne sait pas. Non, c'est pas vrai. Sont intimement liés. Sont intimement liés. Les deux sont intimement liés. Mais je pense que ça commence premièrement par, comme Calvin l'explique, ces deux connaissances sont liées. Mais sans se connaître nous-mêmes, on ne peut pas connaître Dieu. Ça veut dire aussi que si je connais Dieu, je ne peux pas me connaître moi-même. C'est comme ça marche. Hein? Si je me connais pas moi-même, je ne peux pas connaître Dieu, puis si je ne connais pas Dieu, je ne peux pas me connaître moi-même. OK, donc, c'est où le point de départ dans tout ça? Non. OK, fait qu'un enfant qui naît, oui, de lui-même. Oui, c'est ça. Fait qu'un exemple qui est donné, c'est un enfant qui naît. Et je pense qu'on est tous passés par là, hein? On est venu à une connaissance de nous-mêmes, du monde qui nous entoure, avant de venir à une connaissance, de réfléchir à d'où vient tout ça. Fait que je pense que Acte 17, 28, en quelque sorte, nous dit que les hommes cherchent en tâtonnant, puis ils cherchent Dieu, parce que c'est de lui qu'on tient la vie, le mouvement et l'être. Donc, je pense que ça commence par dire, ben, je suis un être qui existe. On réalise notre existence, mais là, il y a une question qui vient, par exemple. D'où vient cette existence-là? Et c'est là que l'homme se tourne vers Dieu. Mais est-ce que la connaissance est complète, entière sur qui je suis? Lorsque je fais juste réaliser, j'ai la vie, j'existe, est-ce que c'est entier? Non. C'est un point de départ. Pour réaliser après ça qu'il y a quelque chose qui existe autour de moi, il y a un univers qui existe autour de moi et qui me parle de la gloire de Dieu vers qui, et ça me, avec la pensée de l'éternité dans nos cœurs, en étant créés à l'image de Dieu, même si on est corrompu, on cherche une réponse. Pourquoi tout ça? Où est mon origine? Et c'est là que l'homme va se tourner vers Dieu pour obtenir des réponses. Et là, va apprendre à connaître Dieu, parce que Dieu s'est révélé. Mais lorsque j'apprends à connaître Dieu, comme dit Calvin, je me connais moi-même. Je connais Dieu, il y a un Dieu qui existe, qui s'est révélé. OK, ah, il me parle de moi. Et lorsque je connais Dieu, j'apprends à me connaître moi-même aussi. Donc, c'est comme une roue qui tourne. C'est plus je me découvre, plus je me tourne vers Dieu. Et plus je me tourne vers Dieu, plus je me connais. Et ça me pousse à me tourner vers Dieu, comme ça. Hein? Et donc, c'est difficile de discerner laquelle précède l'autre, mais je pense quand même qu'une les deux sont intimement liés, comme disait Calvin. Et je ne peux pas avoir une pleine connaissance de qui je suis moi-même simplement en regardant le monde qui m'entoure. C'est Dieu qui me révèle qui je suis. Et j'ai besoin de me tourner vers Dieu. Et dans le passage qu'on a lu précédemment dans Ésaïe 6, on voit que Ésaïe réalise vraiment qui il est lorsqu'il est placé devant la gloire et la majesté divine. Les anges sont là, les anges se couvrent la face, les anges se couvrent les pieds. Ils ont 6 ailes, mais ils en ont juste 2 pour voler, les autres c'est pour se couvrir devant la sainteté de Dieu. Et là, on est placé devant ce Dieu saint. Et qu'est-ce que ça provoque? Ésaïe va dire, « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Donc, à la vue de la sainteté de Dieu, l'homme est placé devant le standard de la perfection et réalise la gravité de son péché. Et les deux conditions préalables pour pouvoir venir à l'Évangile, j'ai besoin d'avoir une connaissance juste de la sainteté de Dieu et de qui je suis, de la gravité de mon péché. Et c'est ce qu'on va aller voir en détail plus en détail, justement, la sainteté de Dieu. On voit, on comprend souvent en premier lieu la sainteté de Dieu comme étant sa pureté, sa perfection. Mais en fait, le mot « saint » veut premièrement une description de son caractère unique et distingué, de son unicité. Dieu est un être pas comme les autres, entièrement à part. Complètement différent de toute autre créature qui existe, que ce soit les anges ou les êtres humains, les créatures dans l'univers. Dieu est un être entièrement à part. Dieu est un être saint, car aucun autre n'est semblable à lui. Il est le seul qui est entièrement éternel, qui est le « je suis ». Il s'est révélé comme « je suis » parce qu'il existe, n'a jamais de commencement ni de fin. C'est le seul qui n'a pas été créé. Tout le reste a été créé. Toutes choses ont été créées par lui. Et tout ce qui existe, visible ou invisible, a été créé par lui à partir de rien. Puis c'est le seul qui est au-dessus et au contrôle de toutes choses. John Frame, c'est un théologien qui a écrit un livre qui s'appelle « La doctrine de Dieu », en anglais « The Doctrine of God ». C'est un théologien qui enseigne à Westminster Seminary aux États-Unis. Il y a un livre excellent, là, une brique, là, ça dépêche juste sur la doctrine de Dieu, qui est Dieu et ses œuvres. Et c'est vraiment, vraiment un ouvrage que j'ai eu à lire pendant mes études, mais vraiment enrichissant. Il va décrire la sainteté de Dieu comme ceci. La sainteté, c'est le pouvoir et le droit que Dieu possède de provoquer notre crainte révérentielle et notre émerveillement. C'est son unicité, sa transcendance, c'est sa majesté, car le Dieu saint est comme un grand roi qui ne doit pas être traité comme une autre personne. En fait, la sainteté de Dieu nous pousse à l'adorer. Et donc, Dieu est unique. Et son unicité, sa sainteté, sa majesté, le fait qu'il est le roi de l'univers, notre créateur, nous amène à répondre à qui il est et à l'adorer. Et Dieu manifeste sa sainteté et son unicité, sa transcendance d'une certaine façon, c'est à travers sa justice. La sainteté de Dieu se manifeste dans le fait que Dieu est parfaitement juste. Ça veut dire que tout est droit en lui. Il n'y a rien d'imparfait. Dieu est le standard, en fait. C'est lui qui établit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. La loi que Dieu a établie, c'est bon parce que c'est Dieu qui l'a écrit. Tout simplement, toute l'existence des règles et des lois que Dieu révèle, c'est bon parce que ça vient d'un Dieu saint et parfait. Et ça découle de lui, ça découle de sa perfection. Oui, c'est parfait, c'est ça. Même on l'a vu la semaine passée dans le psaume 19. La loi est complète, elle est parfaite. Et donc, le fait que Dieu est parfait, en lui tout est droit. C'est le standard de ce qui est juste et c'est lui qui établit ce qui est bon et parfait. Et en se révélant à l'être humain, Dieu étant notre Créateur, le roi qui règne au-dessus de toutes choses, il nous a fait connaître ses lois, ses ordonnances. Et déjà au commencement, Dieu a fait connaître à Adam et Ève un commandement. Il a fait connaître des commandements à Noé après le déluge. Il en a donné aussi à Abraham. Puis même déjà avec Abraham, on voit qu'il y en avait qui étaient déjà communiqués un peu avant. Une loi divine qui avait été communiquée probablement oralement. Et Dieu révèle ses commandements et ses lois à travers les Écritures pour que l'homme puisse obéir et se soumettre à cette majesté, le fait qu'il est le roi, le créateur, et se soumettre et lui obéir. Et Dieu est juste. Et lorsqu'il y a une désobéissance, quelle était la conséquence de la désobéissance? Lorsque Dieu s'est révélé à Adam et Ève, il a dit un commandement. Il n'avait pas beaucoup, il n'avait juste un. Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu vas mourir. Loi, conséquence s'il y a une désobéissance. Je suis saint, tu vas être saint comme moi, tu vas m'obéir et tu vas obéir à mes lois. Et la mort s'en est suivie. Pourquoi? Parce que Dieu a fait connaître sa loi et Dieu est juste. Et lorsque l'homme a désobéi à la loi divine, Dieu étant juste, doit appliquer la conséquence, la mort. Et Dieu étant parfaitement juste, il doit obéir, il doit donner la conséquence et l'exécuter. Et donc, Dieu est juste. Et cette compréhension-là de la sainteté de Dieu, ça commence par le fait que Dieu est un Dieu juste. Ce n'est pas un Dieu qui est comme nous, imparfait. C'est un Dieu dont la loi est parfaite et lorsqu'elle est transgressée, il y a une conséquence, c'est la mort. Et Dieu est saint aussi dans son amour. Dieu est saint, parfait, parfaitement juste. Mais Dieu est juste aussi, puis il est saint, totalement saint dans l'amour qu'il exprime. Et Dieu n'est pas seulement un Dieu de justice, il représente aussi des sentiments relationnels. Dieu nous a créés pour qu'on puisse être en relation avec lui. Dieu désire que je l'aime et que lui aussi nous aime. Puis il veut qu'on vive, qu'on entretienne cette relation-là. Et Dieu n'est pas seulement un Dieu de justice, mais est un Dieu d'amour aussi. Et le but de la création, c'était que les hommes et les femmes puissent glorifier Dieu en vivant dans une relation intime avec lui. Mais l'homme et la femme, ayant péché, comme on l'a mentionné, la relation a été brisée à cause que la justice de Dieu était appliquée sur le péché. Et malheureusement, cette relation-là a été brisée, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Déjà, au moment de la chute, dans Genèse 3, verset 15, on voit déjà, premièrement, avant Genèse 3, 15, peut-être que je me mets dans la séquence, là, Dieu a fourni, quelle a été la réaction de l'homme une fois qu'il a péché? Caché, la honte. La même chose que Ésaïe a vécu, hein, lorsqu'il était placé devant la sainteté de Dieu. Aussitôt qu'il a péché contre Dieu, il y a eu une honte, puis déjà, une certaine façon de se couvrir lui-même et d'entrer en relation avec Dieu par lui-même. C'est fabriquer une petite statue, ouais, avec des feuilles, une ceinture, OK. Ouais, dans un sens, l'homme s'est tourné vers lui-même pour obtenir une solution face au problème. Mais ça ne marchait pas, la solution qu'il avait trouvé. Dieu a remplacé ça. Il dit, non, c'est pas avec des feuilles que tu vas te couvrir, c'est avec la peau d'un animal. Et déjà, Dieu révélait les sacrifices qui allaient venir à travers ça. Et dans Genèse 3, 15, il annonce déjà que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Déjà, on voit, il appelle ça le début de l'Évangile, la première annonce de l'Évangile qui allait venir plus tard. Et Dieu, dans son amour, a voulu restaurer ça. Est-ce qu'il était obligé de le faire? Absolument pas. Dieu aurait été parfaitement juste de tout arrêter cela, détruire, donner la mort à Adam et Ève. Mais Dieu a fait grâce, leur a permis de continuer d'entretenir une relation avec lui à travers justement des sacrifices, mais ultimement à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Donc Dieu est saint, mais en même temps, dans sa sainteté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est juste, que Dieu est amour. Dieu est distinct. Il se distingue. Qui aurait démontré de l'amour envers un pécheur comme moi et comme vous, sinon que Dieu lui-même, d'un amour parfait en Jésus-Christ, qui aurait donné son Fils en sacrifice pour les péchés de ceux qui m'ont offensé, par exemple. Si c'est moi à la place de Dieu, je suis offensé, puis je dis, regarde, pour couvrir ça, je vais effacer ta faute, je vais donner mon Fils en sacrifice. C'est un amour qu'on peut... Et Dieu est saint dans son amour. Dieu est distinct. Dieu est unique dans l'amour qu'il a exprimé. Donc ça, c'est ce qu'on apprend de Dieu dans un sens à travers Ésaïe 6, mais aussi lorsqu'on examine Dieu. On a besoin, avant de venir à l'Évangile, j'ai besoin de comprendre qui est Dieu, sa justice et son amour. J'ai besoin de comprendre aussi la gravité du péché. Comme on l'a mentionné, le péché, c'est la transgression de la loi divine. Et lorsqu'on ne respecte pas tous les standards de la loi et des ordonnances de Dieu, on se trouve en infraction, comme je peux dire. Comme si je transgresse la loi dans la société, je me trouve en infraction par rapport aux standards divins. Puis, ça fait de nous des pécheurs. Fait qu'il y a plusieurs manières que le péché s'exprime. Et puis, lorsque dans EE, on évangélise, on explique c'est quoi le péché. Il y a des péchés, deux types de péchés. On dit qu'il y a un péché de commission, par des actions, des paroles ou des pensées que je vais produire. Mais aussi l'autre aspect, puis des fois on l'oublie celle-là, l'omission, celui où je ne fais pas ce que je devrais faire. Il y a le péché de quand je fais ce que je ne devrais pas faire. Et il y a le péché de quand je ne fais pas ce que je dois faire. Et puis, à plusieurs égards, bien, premièrement, le premier endroit où je ne fais pas ce que je devrais faire, c'est dans mon amour pour Dieu. Dieu demande, tu vas m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et qu'est-ce que moi, je vois dans mon cœur, avant de venir à Christ, sans l'aide de l'Esprit de Dieu, c'est pas ça du tout. Et j'ai déjà manqué, premier commandement, déjà manqué, puis ça me met en infraction, c'est ça. Et puis, je suis séparé de Dieu à cause de mes péchés. Donc, il y a le péché que moi, je commets. Puis, il y a aussi l'élément aussi que parfois on oublie, c'est qu'il y a des péchés qui sont collectifs aussi. C'est non seulement l'être humain va pécher individuellement, il va pécher collectivement. Il y a un dicton qui dit « là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie ». On peut dire, là où il y a des pécheurs, il y a du péché. Hein? Et lorsque les pécheurs sont mis ensemble, que ce soit dans notre société, collectivement, on peut être coupable de péché. Ésaïe a réalisé ça. Il dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Donc, moi-même, je ne suis pas digne d'être devant toi, pas seulement à cause que moi, je suis impur à tes yeux, mais à cause que je suis au milieu d'un peuple qui est totalement dépravé, totalement impur devant toi. Et il y a ce péché collectif, c'est collectif aussi, dans le sens que on peut le voir parfois dans les organisations, des gouvernements, les êtres humains font le mal en étant liés ensemble. Dans notre société, on n'y participe pas parce qu'on est contre ça, on s'oppose à ça, par exemple à l'avortement ou à d'autres péchés qui sont commis. Parfois même sans s'opposer, c'est comme si on participait dans ça. On est au milieu de ça, puis le fait qu'on n'agit pas ou qu'on n'explique pas c'est quoi le standard de Dieu, on reste en silence, on laisse les choses aller. Je pense qu'on doit le faire, on doit bien le faire. Si on doit dénoncer des choses, ça doit être bien fait, mais c'est une responsabilité qu'on a quand même comme chrétien, comme Église. On se met ensemble, peut-être qu'il y en a un qui va être capable d'articuler puis une position qui va faire en sorte qu'il va être bien reçu. Ça me fait penser à Paul... Paul Gazdic, qui était pasteur à Québec, puis après ça à Greenfield Park, pendant qu'il y a eu la loi sur l'union civile, est allé présenter un mémoire, est allé comme dire, voici ce que Dieu dit, et qu'on ne devrait pas aller vers ces options-là de l'union civile, et puis a représenté les chrétiens évangéliques en dénonçant ça. Donc, je pense que c'est bien ça. Mais ça doit être bien fait, ça doit être bien fait, mais on fait partie de cette... On est au milieu d'une société, puis on le voit à plusieurs reprises. Néhémie va confesser les péchés du peuple. Daniel va le faire aussi quand il est à Babylone. C'est comme, je fais partie de ce peuple-là. On n'est même pas digne d'entrer en relation avec toi parce que tout le peuple est... Et je fais partie de ce peuple-là. Et en quelque sorte, on peut en déduire que faisant partie de la race humaine, je suis dans le lot de ceux qui n'honorent pas Dieu, donc qui ont péché. Donc, Juste pour prendre une petite pause, une petite parenthèse, j'ai besoin de faire circuler ça pour que vous inscriviez. On veut avoir un peu les présences. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un stylo, le mien, il n'est vraiment pas en état de bien fonctionner, puis qu'on pourrait le faire circuler puis le ramener. Ça va, Louise? C'est bon. Oui, mais on ramène le stylo à Louise, hein, s'il termine dans vos mains, et puis on peut inscrire les noms. Deux choses qu'on doit reconnaître, qu'on doit comprendre, c'est Dieu est saint, comprendre la sainteté de Dieu, puis comprendre la gravité du péché. Si je n'ai pas cette compréhension-là, je ne peux pas accepter l'Évangile et entrer dans une relation avec Dieu. Donc, ça nous pousse à aller au deuxième point que, dans le fond, la relation avec Dieu est rendue possible par Dieu lui-même. Ici, je veux démontrer, dans un sens, que l'œuvre d'entrer en relation avec Dieu, c'est une œuvre de la Trinité en entier. OK? Ça a sa source dans Dieu le Père, accompli en Jésus-Christ et qui prend effet avec le Saint-Esprit. OK? Et on va voir là, que c'est Dieu qui met tout en œuvre selon le bon conseil de sa volonté pour qu'on puisse entrer en relation avec lui. Dieu se manifeste, Dieu le Père se fait connaître. Et ça commence, si on peut entrer en relation avec Dieu, ça commence par le fait que Dieu se révèle. Et comme Hébreu 1 le dit, autrefois, Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières au Père de la nation d'Israël par la bouche des prophètes. Et comme j'ai mentionné, il a parlé à plusieurs reprises avec Noé, Abraham, Moïse. Et puis, il s'est fait connaître, et particulièrement à travers la nation d'Israël. Mais le passage va poursuivre dans Hébreu 1 en disant que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Et par Jésus-Christ, en venant sur la terre, Jésus-Christ est venu révéler et nous faire connaître Dieu le Père. Et j'aimerais ça qu'on puisse tourner ensemble dans Jean 12, versets 49 à 50. Jean 12, où Jésus va déclarer qu'il est venu nous révéler le Père, qu'il était la manifestation de Dieu lui-même pour qu'on puisse connaître Dieu. Et dans Jean 12, à la fin, versets 49 et 50, ça dit « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. » C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. Et l'œuvre de Jésus, et ça on le voit beaucoup dans l'Évangile de Jean, l'œuvre de Jésus était de venir nous révéler le Père, de venir nous révéler qui est Dieu et son amour pour nous. Et donc, s'il est possible de connaître Dieu, c'est parce que Dieu est venu vers nous. C'est parce que Dieu a décidé de venir à notre rencontre. Dieu s'est fait connaître aussi comme étant le Dieu qui nous sauve. Dieu est venu vers les hommes pour nous se faire connaître, et comme le Dieu qui sauve aussi. Et en Jésus-Christ, effectivement, Dieu le Fils est venu accomplir toute l'œuvre, on va le voir plus loin, mais toute l'œuvre qu'on avait besoin pour être sauvé. Ésaïe 43, c'est un des chapitres de la Bible où on découvre le plus que l'Éternel, où l'Éternel se manifeste comme un sauveur. Et l'idée ici, c'est que, oui, Jésus est le sauveur, mais qui est le sauveur? C'est l'Éternel, c'est Dieu dans la Trinité, c'est en entier que Dieu veut sauver. Et dans Ésaïe 43, les versets 11 et 25, Ésaïe va dire, c'est Dieu qui parle, en fait, et c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Sans Dieu qui vient vers nous, c'est impossible d'entrer en relation avec Dieu. J'ai besoin d'être sauvé parce que je suis un pécheur et puis je suis coupable de mes propres péchés, je suis coupable d'une multitude de péchés. Et si Dieu ne vient pas vers moi pour me sauver, je suis perdu. Et à la fin du passage, verset 25, il va dire, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et donc, Dieu met l'accent sur le fait que tu as besoin d'un sauveur. Puis ce sauveur-là, c'est moi. C'est moi qui viens vers toi pour que tu puisses être sauvé, que tu puisses avoir cette relation intime avec moi. Et tout ça a été manifesté, comme je disais, dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, Dans les évangiles, on découvre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu révéler le Père pour accomplir son œuvre salvatrice envers les hommes. Jésus était le seul à pouvoir accomplir cette œuvre-là. Puis pourquoi c'était le seul? Pourquoi Jésus était le seul? Le seul qui était sans péché. Et donc, le péché demandait un sacrifice pour être pardonné. Et j'en avais besoin d'une victime parfaite, un agneau sans tache. Et c'est Jésus, avec une vie parfaite, qui était rendu, qui devenait cette victime parfaite-là pour nous. Et en fait, je pense aussi que le fait que Jésus était Dieu lui-même, dans toute son humanité, a fait en sorte qu'il n'a pas connu le péché. Mais Dieu venait se donner, il me disait, je vais prendre une vie comme la tienne, parce que tu n'es pas capable de la vivre puis de respecter mes standards, mes lois. Mais moi, je suis capable, fait que je vais prendre une vie comme la tienne, puis je vais être tenté comme toi, puis je vais être exposé comme toi à la tentation, mais moi, je ne vais pas pécher, pour pouvoir me rendre jusqu'à l'œuvre de la croix où je m'offre en sacrifice pour tes péchés. Et c'est la perfection de Jésus qui le rend le seul capable de s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Aucun autre homme n'aurait pu le faire parce qu'un autre homme serait mort pour ses propres péchés. Mais Jésus n'est pas mort pour ses péchés. Il est mort pour accomplir la justice de Dieu pour nous. Et c'est pour ça que sa mort sacrificielle, c'est le deuxième aspect de son œuvre, l'œuvre qu'il a accomplie. Le premier aspect, en fait, c'est le fait que Jésus s'est incarné, Dieu est venu vers nous. Et ensuite de ça, il y a sa mort sacrificielle. Si Dieu le Fils n'était pas venu dans le monde, il n'y aurait pas eu la mort qui rendait le sacrifice. Donc, tout commence dans l'incarnation et ensuite de ça, dans sa mort sacrificielle. Et ici, je veux mentionner un élément quand même important parce que dans la théologie évangélique, l'idée de la mort de Jésus comme une mort en sacrifice pour les péchés est de plus en plus diluée. On mentionne énormément que Jésus est un exemple, un modèle, que finalement Jésus est juste venu nous donner un modèle d'amour qu'on doit exprimer envers notre prochain. Et ce modèle d'amour-là s'est exprimé jusqu'à mourir, jusqu'à donner sa vie pour ceux qui l'aimaient. Ah, c'est-tu beau! Il est allé jusqu'à servir puis à donner sa vie. Il est mort parce qu'il les aimait. Est-ce que c'est seulement pour ça? Oui, c'est par amour qu'il est mort pour nous, effectivement. Est-ce que c'est toute la vérité? Non. Il y a un aspect qu'on essaie d'éviter, le fait que, à cause de mon péché, la colère de Dieu est sur moi. C'est la colère de Dieu qui est sur moi, puis je ne peux pas entrer en relation avec Dieu parce que je suis un enfant de colère, comme dit Éphésiens 2. Je suis un enfant de colère, je ne peux pas entrer en relation avec Dieu. Et puisque je suis sous la colère de Dieu, ça prend quelqu'un qui vient subir la colère de Dieu à ma place. Ésaïe 53 le mentionne bien. On était errants comme des brebis, on suivait notre propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est lui qui a été châtié à notre place. Il a reçu la colère de Dieu à notre place. Parce que sans ce sacrifice pour nos péchés, on ne pourrait pas avoir le pardon des péchés. On serait encore sous la colère de Dieu. Mais avec cette idée, là, de plus en plus, je peux dire, Dieu est amour, Dieu nous aime, on n'est pas sous la colère de Dieu. J'ai même lu récemment qu'une des associations aux États-Unis a renoncé à inclure le chant, en anglais, c'est « In Christ Alone », on le chante ici, « En Jésus seul », de leur livre de cantique. Parce que dans le chant, ça dit « Sur lui, la colère est tombée. » Et ça, c'est contre une théologie qui dit que Dieu est seulement amour et qui n'est pas juste. Et donc, on ne veut plus chanter que « Sur lui, la colère est tombée. » Mais c'est ça qui s'est passé. Jésus a subi la colère à cause de mes péchés. Et si ce n'était pas arrivé, je ne pourrais pas vivre des affections spirituelles puis entrer en relation avec Dieu. Ce serait impossible de vivre une relation avec Dieu sans la colère de Dieu qui tombe sur Jésus-Christ plutôt que sur moi. Comment? Oui, oui. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il avait reçu la colère de Dieu pour nos péchés. Alors, on emploie un terme en théologie, on parle de substitution pénale. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Jésus a subi la condamnation à ma place. Il s'est substitué à ma place pour subir le châtiment. Et donc, l'idée de substitution pénale est de plus en plus en train de se disparaître, même dans des milieux évangéliques, en voulant mettre l'accent sur l'amour de Dieu. Il faut garder les deux. La sainteté de Dieu, c'est son amour et sa justice ensemble. Et c'est ce que les Écritures nous révèlent. Donc, c'est important de se rappeler que Jésus est mort pour nous, pour nos péchés. C'est lui qui a subi le châtiment, la colère pour nous. Et puis, des aspects de l'œuvre de Christ que si ce n'était pas là, il y aurait un problème. Sa résurrection d'entre les morts, si Christ n'était pas ressuscité, qu'est-ce que Paul dit? J'étais encore mort dans mes péchés. J'étais encore mort dans mes péchés. Dans un sens, Christ a besoin de montrer que Dieu a agréé ce sacrifice-là. Et comment Dieu a manifesté qu'il avait agréé le sacrifice? Il a ressuscité d'entre les morts pour qu'il puisse paraître devant Dieu à notre place, puis être notre avocat auprès du Père. Et c'est là l'importance de la résurrection. Et même là, Paul va dans un sens, l'argument de Paul est plus proche du fait que s'il n'y a pas de résurrection, moi non plus, je ne vais pas ressusciter. Comment je peux vivre une relation éternelle et une vie éternelle avec Dieu si Christ n'est pas ressuscité? Ça veut dire, moi non plus, je ne vais pas ressusciter. Fait comme j'avais déjà dit dans une prédication, on va faire un gros party puis on va s'amuser. Mais non, parce que Jésus est ressuscité, ça nous rappelle que nous aussi, on va ressusciter puis on va avoir apparaître devant Dieu. Et donc, la résurrection de Christ garantit notre résurrection, mais aussi démontre que Dieu a agréé le sacrifice. Parce que Dieu l'a ressuscité, l'a rendu vivant, puis l'a élevé à la droite de Dieu, puis pour que tout genou fléchisse devant lui. Et c'est là l'importance de l'ascension de Jésus. On oublie souvent ça. On parle souvent de sa mort, sa résurrection. Mais on oublie que... Il y en a qui n'ont pas eu la feuille. OK, c'est bon. OK, ça va circuler. L'ascension de Jésus est importante aussi. Parce que Jésus n'est pas, contrairement à ce qu'un certain évangile, pseudo-évangile dirait, qui est parti en Inde, puis il est allé enseigner après sa résurrection, il est allé enseigner là-bas, puis il est mort là-bas, puis on n'a pas, finalement, il n'est pas retourné vraiment vers Dieu. Si Jésus n'est pas retourné vers Dieu, c'est qui mon avocat auprès de Dieu maintenant? Jésus est entré, il a traversé le voile, il est entré dans le ciel même pour que moi je puisse entrer. Puis il dit, regarde, Alexandre, là, il peut rentrer parce que moi j'ai payé pour lui. S'il n'est pas là pour montrer ça, c'est qui mon avocat? J'en ai pas, je suis perdu. Donc l'ascension de Jésus puis son élévation à la droite de Dieu est importante aussi. Comme dit, entre autres, 1 Pierre 3,18, il dit, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, pour nous amener à Dieu. Et ce que ça veut dire, c'est que Christ est mort pour pouvoir qu'on puisse entrer en relation avec Dieu, pour nous amener à Dieu. Mais sa présence aussi, comme le dit Romains 8, sa présence auprès de Dieu fait qu'il intercède pour nous. Et 1 Jean 3 va mettre l'accent sur cet avocat que Jésus est pour nous. Donc, on a vu la personne de Dieu. Dieu est venu vers nous dans la personne de Dieu lui-même qui s'est manifesté, qui s'est fait connaître à nous comme le Sauveur à travers Jésus-Christ. Et maintenant, la troisième personne de la Trinité qui effectue une œuvre dans notre salut, c'est l'Esprit de Dieu. Pour pouvoir expérimenter une relation personnelle avec Dieu, on a besoin que Dieu vienne vers nous. Dieu a déjà accompli quelque chose, mais on a un problème. C'est que tout ça est accompli, mais devant ça, il y a plusieurs personnes aussi qui refusent ça comme le moyen d'entrer en relation avec Dieu, refusent ce que Christ a accompli. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu vienne vers moi pour me convaincre que ça, c'est la vérité, que ça, c'est le moyen par lequel je vais entrer en relation avec Dieu. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu qui convainc mon cœur de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui fait cette œuvre-là. Et donc, on a besoin de l'Esprit de Dieu qui vient faire une œuvre dans nos vies pour ouvrir nos cœurs, notre intelligence, afin qu'on reçoit la vie spirituelle qui est transformée. C'est l'Esprit qui convainc les cœurs. Et le rôle du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance et la conversion, c'est important parce que c'est lui que Jésus envoie pour convaincre les cœurs. Et dans Jean 16, on était dans Jean 12 tout à l'heure, mais juste un petit peu plus loin, dans Jean 16, au verset 8 à 11, Jésus va dire, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, Jésus allait envoyer le Consolateur. Et quelle est l'œuvre du Consolateur, de l'Esprit de Dieu? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et donc, si j'ai besoin, pour réaliser mon état réel devant Dieu, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu qui m'aide à voir cet état-là. J'ai besoin d'être convaincu de péché. Parce que par nature, je ne crois pas. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a personne qui fait le bien. Nul cherche à connaître Dieu réellement. Mais par l'Esprit de Dieu, il vient me convaincre de péché. Parce que j'ai besoin de croire en Jésus. Il vient me convaincre de la justice. Comme Jésus dit, parce que je m'en vais au Père, que la justice a été accomplie en Jésus-Christ. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé, parce que Christ a accompli. Satan est jugé, il peut avoir un jugement qui s'en vient. Mais j'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour me convaincre de ces choses-là, de ces aspects-là, de mon péché et de la justice de Dieu accomplie en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est aussi la source de la vie spirituelle. Si je veux vivre en relation avec Dieu, j'ai besoin d'une nouvelle vie spirituelle. Comme le dit très bien Jean 3, on n'aura pas le temps d'aller tout lire les passages. Mais le mot « esprit » vient du mot grec « pneuma » qui signifie le souffle. Et dans un sens, c'est le même mot qui est utilisé, pas le mot grec, mais le mot hébreu, c'est... je me souviens plus. Oui, c'est ça. Le mot « souffle ». Pneuma, c'est en grec, dans le Nouveau Testament, en hébreu, c'est le mot souffle qui est utilisé pour le souffle de vie que Dieu a donné au moment de la création. OK? Et donc, l'Esprit de Dieu, c'est celui qui amène ce second souffle, ce souffle de vie spirituelle. Et pour ça que Jésus dit, si une personne, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut voir le royaume de Dieu, parce qu'il a besoin de naître d'esprit aussi. Et donc, il y a besoin d'avoir la vie spirituelle qui vient et qui rend possible cette relation intime avec Dieu. Ce qui me rend possible de me tourner vers Dieu pour réaliser mon péché et recevoir ce que Christ m'a offert, c'est ce souffle de vie qui vient en moi, qui me fait voir mon état et qui, après, me donne accès à Dieu. Si je suis en relation avec Dieu, c'est parce que Dieu est venu vers moi, en la personne du Saint-Esprit aussi, dans ma vie. Et c'est lui qui rend possible. Et donc, pour cette raison, celui qui ne va pas naître de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et puis, on a besoin de naître de nouveau, c'est-à-dire recevoir, de naître de l'Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. Et finalement, il y a un cœur qui est transformé. L'Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu va venir redonner vie à nos cœurs rebelles et qui sont sous la colère de Dieu, on est transformé pour vivre par obéissance au Seigneur. On ne voit plus la loi du Seigneur comme des commandements, des restrictions pour nous empêcher de suivre les penchants de notre cœur. Parce que dans un sens, on voit la loi divine lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur ou on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous. On voit la loi divine comme hey, c'est un paquet de restrictions qu'il faut que je suive, sinon je ne peux pas entrer en relation avec Dieu. On a cette idée-là. Mais ça nous empêche de vivre selon nos cœurs, selon notre cœur rebelle. Mais l'Esprit de Dieu vient transformer ça. Il dit, non, maintenant, c'est pas parce que je ne peux pas suivre ce que moi je veux faire ce que Dieu veut. Je veux faire la volonté de Dieu, je veux vivre pour sa gloire maintenant. Et l'Esprit de Dieu change et voit la loi comme ça. Seigneur, merci de me l'enseigner parce que c'est ça que je veux faire, je veux te glorifier. C'est plus comme des restrictions, mais c'est plutôt une liberté maintenant de vivre selon la loi, de vivre selon la loi divine par l'Esprit de Dieu. Et pour aller voir le passage dans Tite 3, les versets 4 à 7, qui parle de cette régénération, qu'on a été régénéré par l'Esprit de Dieu pas à cause de nos œuvres, mais à cause de la miséricorde de Dieu. Devant ça, ces prérequis, c'est cette connaissance de la sainteté de Dieu, cette connaissance de la gravité du péché, devant tout ce que Dieu a accompli pour moi en démontrant son amour en Jésus-Christ, c'est pas comme les nouvelles à 10 heures du téléjournal de 10 heures le soir, là, ou ce que j'écoute, puis ça change rien, c'est ça? Ça doit provoquer quelque chose. L'Évangile, là, on le proclame parce que on a besoin que les gens répondent à ça. Est-ce qu'on répond, on dit, « Hey, regarde, t'es pécheur, avant la sainteté de Dieu, t'es perdu, mais Dieu a donné Jésus. » C'est ça. J'ai fini de dire l'Évangile. C'est ça, comme ça que les apôtres prêchaient. Ça suscitait des questionnements. Des fois, les gens posaient une question comme, merci, Kim. Ça a pris du temps. Et dans un sens, c'est ça. Je vais reprendre où ce que je pense que je t'ai rendu parce que je l'ai perdu. C'est pas les nouvelles du téléjournal de 22 heures. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils disaient? Repentez-vous et croyez. Il y a une réponse qui est exigée. Dieu exige une réponse. Puis si tu réponds pas, ben tu le refuses dans le fond. Et tu as besoin que lorsque tu entends, lorsqu'on proclame l'Évangile, on a besoin d'appeler une réponse aussi. Parce que c'est ce que Dieu attend. Et c'est quoi la réponse? Une repentance profonde envers Dieu. Une foi sincère qui s'appuie sur Jésus-Christ seul pour le salut, puis une soumission complète et joyeuse à la volonté de Dieu. Ça fait partie de tout ça. Dans un sens, la soumission complète, ça fait partie de la repentance et la foi. La repentance, Jésus l'a proclamé, même dans son ministère, en annonçant la bonne nouvelle. Il disait aux foules, on voit dans Marc 1, quand il allait dans les villes et les villages, qu'est-ce qu'il disait? « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle et fuyez la colère à venir. » Il disait « Repentez-vous. » Jésus appelait à une repentance. Et on a besoin, lorsqu'on réalise notre état devant Dieu, devant sa sainteté, de répondre en disant « Misérable que je suis. Pourquoi j'ai suivi cette voie-là? Puis je ne suis pas en train de te glorifier. Je devrais être en train de te glorifier. » Ce n'est pas ça. Et cette repentance, c'est réaliser ça, reconnaître que je suis un pécheur, puis dire « C'est pas comme ça que je veux vivre. Je ne veux pas vivre en suivant les penchants de mon cœur, puis en étant rebelle à toi. Je veux vivre pour ta gloire. » Et on parle souvent de ce 180 degrés, ce U-turn, ce demi-tour qu'on fait dans notre vie, où on s'en allait carrément vers la destruction. Puis à un moment donné, par sa grâce, Dieu nous révèle qu'on a besoin de lui, puis on se tourne. Puis on dit « Non, c'est pas ça que je veux, c'est toi que je veux. » Et ça nous pousse à aller vers Christ, placer notre foi en lui seul pour recevoir, répondre à ce qu'il a offert pour moi, sa vie en sacrifice, puis le recevoir par la foi, une foi sincère, qui se manifeste aussi par la repentance. Donc, la repentance et la foi, ça va ensemble. Puis des fois, je l'ai déjà mentionné, je le sais, mais je le répète, on a tendance à... Tu as besoin de placer ta foi en Jésus-Christ, tu as besoin de placer ta foi en Jésus, mais il y a un autre aspect qui va avec ça. La foi en Jésus veut dire aussi, détourne-toi de ce que tu vivais avant pour te tourner vers Dieu, puis chercher à faire sa volonté. Jésus n'est pas juste un sauveur, mais c'est le Seigneur de toutes choses aussi. Tu dois te soumettre à lui et vivre pour lui maintenant. Donc, je pense qu'on n'annonce pas entièrement l'Évangile lorsqu'on ne parle pas de repentance. On parle juste de foi. Quelqu'un peut croire. Mais de la vraie foi, dans le fond, lorsque ça vient de l'Esprit de Dieu qui fait son œuvre en nous, amène une repentance aussi et une soumission complète et joyeuse à la volonté de Dieu. Cette repentance nous pousse maintenant à reconnaître qu'on doit vivre cette vie nouvelle par l'Esprit de Dieu en se soumettant entièrement à la volonté de Dieu. Juste pour terminer, pourquoi j'ai fait... Dans le fond, je vous ai prêché l'Évangile le matin, avez-vous remarqué ça? Oui? Hein, ça ressemblait à ça, hein? Parce que les affections spirituelles puis une relation personnelle avec Dieu, ça commence et c'est fondé sur le fait que Dieu est venu vers nous, qu'il s'est manifesté, qu'il a tout accompli pour qu'on puisse entrer en relation avec lui. C'est nécessaire. Puis je ne prends pas pour acquis que tout le monde a saisi ça ici. Puis ça se peut que ça fait des années que tu es dans une église, que tu fréquentes même l'église ici, puis tu n'avais pas réalisé que tu avais besoin de mettre ta foi en Jésus seul, puis de vivre une repentance profonde, et vivre cette nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu pour rentrer en relation avec lui. Puis si ce n'est pas une décision ou quelque chose que tu dis, Je veux juste faire une parenthèse. Ça peut arriver qu'à un moment donné, des fois, la nouvelle naissance, c'est progressif. On ne sait pas, on a de la misère à mettre un doigt là-dessus. C'est quand est-ce que ça s'est passé réellement? Avant, ce que je réalise, c'est qu'avant, c'était comme ça, mais là, à cette heure, c'est plus de même, là. Ben, si tu es capable de dire ça, tu as probablement vécu la nouvelle naissance. Puis tu n'es pas obligé de mettre le doigt sur le moment, puis quand est-ce. Tu peux probablement trouver une période. Mais si aujourd'hui tu déclares que Jésus est ton seul sauveur, qu'il est le Seigneur de ta vie, puis que tu places ta confiance en lui seul pour la vie éternelle, c'est ça. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est ça que tu as besoin de déclarer et de vivre aujourd'hui. Et si tu ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dis de Jésus aujourd'hui? C'est ça qui est important. Comment? Oui, c'est ça. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans le fond, ce qui est pas important, c'est de savoir quand est-ce. J'ai-tu besoin de mettre un doigt dessus? Moi, des fois, on s'en souvient. Gloire à Dieu, c'est le fun. Je me souviens de ce moment où j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre, c'est avec toi, je veux marcher. Mais ça se fait de jour en jour, hein, on répète ça aussi. On vit l'Évangile au quotidien, puis ça nous ramène à dire, je suis misérable, puis grâce à toi, ben, j'ai le pardon, puis je veux vivre pour toi. Fait que on revit l'Évangile à tous les jours. Donc, c'est à cause de ce que Dieu a accompli pour nous qu'on peut vivre les affections spirituelles. Puis je veux juste terminer en lisant un hymne qui a été écrit par Isaac Watts, qu'on a dans nos livres de cantiques, qu'on chante pas souvent. Et vous blâmerez le pasteur de la louange pour ça. c'est un chant que je vais réintroduire dans notre banque de chants au cours de l'année parce qu'il a été travaillé, mais les paroles sont merveilleuses. Quand je te contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Ô mon Sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas pour que ta mort devienne ma vie. Vit-on jamais amour si grand s'unir à douleur plus extrême et l'épine au front d'un mourant resplendir comme un diadème? Et c'est le dernier couplet qui est notre réponse. Parce que ce que tu as accompli pour moi à la croix, puis dans un sens, ton humilité, ce que tu as accompli par ton sacrifice, qu'est-ce que je dois dire? Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande, mais voici ma vie et mon cœur. C'est ce qu'un tel amour demande. Voici ma vie et mon cœur. C'est ce qu'un tel amour demande. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier parce que si on peut vivre en relation avec toi aujourd'hui, c'est parce que toi, tu es venu vers nous. Seigneur, on ne méritait pas ça. On était des pécheurs perdus dans nos péchés, puis ça aurait été entièrement juste de ta part qu'on soit séparés de toi et qu'on ne puisse pas vivre avec toi pour l'éternité. Mais tu nous as tant aimés. Ton amour s'est manifesté d'une façon extraordinaire dans le sacrifice que tu as offert pour nous à la croix. Seigneur, devant ce sacrifice, je réalise que mon orgueil d'autrefois était vain et dérisoire. Et je veux t'apporter maintenant, Seigneur, ma vie en humble offrande. Je pourrais t'apporter l'univers, ça ne serait pas suffisant, Seigneur. Qu'est-ce que je peux t'apporter sinon que simplement répondre, « Me voici, Seigneur. Je veux être ton serviteur et fais de moi l'homme que tu veux que je sois pour que je puisse vivre pour toi et pour ta gloire. Envoie-moi, Seigneur. Fais de moi un témoin de ta grâce et que je puisse vivre de jour en jour en m'appuyant sur toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce temps et que ton nom soit glorifié. Permets qu'on puisse te glorifier avec des cœurs entiers pendant ce temps de célébration et que nous puissions être ouverts à l'enseignement de ta parole. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.